Le deuxième point, c'est la vie. Le troisième point, c'est la beauté. Et le quatrième point, c'est les fruits de la beauté et de la divine trinité. Avant tout, il faut parler de la méthode. C'est ce que dit le Christ quand il dit « Je suis la vérité, la voie et la vie ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis la vérité, la voie et la vie » Heidegger dit « C'est une vision romaine ». Quand on analyse ça, ben, je ne vois pas de commentaire qui m'est vraiment frappé. Pourquoi ? Parce que on ne prend pas au sérieux ce que veut dire « je suis la voie, la vérité et la vie ». La vérité, c'est quoi ? C'est la vie. Et le but, c'est quoi ? Le moyen. La voie qui conduit à la vérité, c'est quoi ? C'est de dire que la voie est dans le « je suis ». Quand le Christ dit « je suis la voie », il ne faut pas comprendre « moi, je suis la voie ». « Moi, je suis le chef ». « Moi, je suis Dieu ». Ce n'est pas du tout ça qu'il dit. Mais c'est ce qu'on lui a fait dire. C'est pour ça. C'est à l'inverse, qu'est-ce qu'il dit ? La voie et le « je suis ». C'est ce qui donne du sens quand il dit « servez-vous de moi, passez par moi ». Et je me suis dit, il faut se servir du Christ, c'est-à-dire des trésors, des cadeaux qu'il nous fait quand il parle du Fils de Dieu, quand on parle du Christ Dieu fait homme, quand on parle de la Trinité. Le « je suis », c'est le nom de Dieu. Yodévavé. C'est vous quand vous êtes vous. C'est Dieu quand il est Dieu. C'est la coïncidence entre Dieu et l'homme, quand l'homme est en Dieu et que Dieu est en l'homme. À ce moment-là, on est dans le « je suis », on est dans la plénitude. Et la plénitude, c'est la vie. Allez dans la plénitude. C'est ce que nous faisons tous les dimanches, lorsque nous communions. Que veut dire « communier » Dieu est en vous et vous êtes en Dieu. Et il y a une coïncidence entre vous et Dieu. Et cette coïncidence fait que tout d'un coup, on passe sur le plan réel de l'existence, qui est inimaginable. Donc, c'est ça qui me paraît très important. Nous sommes là pour quoi ? Nous sommes là pour vivre. D'où est-ce que nous venons ? Nous venons de la vie. Qu'est-ce que nous sommes ? Des êtres vivants. Où allons-nous ? Vers une vie inimaginable. Qu'est-ce que nous essayons de faire ? De rendre la vie plus vivante qu'elle n'est. Qu'est-ce qui nous permet de faire l'expérience de la vie ? Faire l'expérience du « je suis ». Qu'est-ce qui se passe quand je fais l'expérience du « je suis » ? En moi, je découvre un autre moi qui est plus que moi et qui m'aide à être vraiment moi. Cet étrange étranger plus intime à moi-même que moi-même. L'expérience de Dieu, quand on est extérieur, qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend rien à Dieu. Et quand on essaye de comprendre, ce n'est pas Dieu, on fait de l'astrophysique. C'est-à-dire, on regarde le monde, et on dit, il faut bien qu'il y ait une cause à tout ça. Donc, pour sauver la causalité, on dit qu'il y a un Dieu. C'est pour ça que personne, en termes philosophiques, n'a jamais convaincu personne de Dieu avec l'idée qu'il faut une cause à tout ça. À l'inverse, quand on arrête de chercher des causes, mais que simplement on fait l'expérience de la vie, l'expérience de la liberté, l'expérience de nous-mêmes, l'expérience de la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tout d'un coup, tout ce qu'on n'a jamais compris sur Dieu, on le comprend, il est là. Il est à l'intérieur de nous, comme dit l'évangile de Luc, Dieu est en vous. Mais ça, toutes les sagesses, toutes les spiritualités, depuis des milliers d'années, ne cessent de le répéter. Et le père Gérard le citait Épictète, qui dit, ignorant, homme malheureux, Tu as Dieu en toi et tu l'ignores. Donc ça, ça me paraît très important. C'est la méthode. Alors, au cours de mes analyses, de mes réflexions, pour essayer de rentrer dans la vie divine et la connaissance de Dieu, bien, j'ai trouvé 4 éléments qui m'aident à faire l'expérience de Dieu, à faire l'expérience de cet autre en moi, plus intime à moi-même que moi-même. L'extraordinaire, l'état intérieur, les images et le passage. Premier point, l'extraordinaire. Je suis quand même stupéfait de voir la légèreté avec laquelle on parle de Dieu, sauf vous évidemment, et dans lesquels on parle du religieux. Est-ce qu'on se rend compte que c'est extraordinaire? Que lorsque tout ce dont parle le Christ est extraordinaire, que toutes les choses qui sont liées à la vie divine sont extraordinaires, et tous ceux, toutes celles qui ont fait l'expérience de Dieu et qui ont parfois eu des visions, vous disent, je ne peux pas vous raconter, c'est extraordinaire. Alors vous avez des expériences de mort imminente, où tout d'un coup vous voyez la lumière, et puis vous avez des visions tout à fait extraordinaires, et parfois il y a des rencontres tout à fait extraordinaires. Si je veux parler de l'extraordinaire, Valérie et moi, nous avons rencontré un père merveilleux qui s'appelle le père Méthodios. Je suis allé le voir à Thessalonique, dans l'église de Saint-Grégoire-Palamas, magnifique au milieu de Thessalonique. Il a beaucoup connu le père Paizos que j'ai rencontré, qui a été sanctifié. Et il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, quand je priais avec le père Paizos, un jour, le père Paizos m'a dit, je te demande de ne pas te retourner, je serai derrière toi, mais je te demande de ne pas te retourner. Bien évidemment, il suffit de dire à quelqu'un de ne pas le faire pour qu'il le fasse. Et en se retournant, qu'est-ce qu'il a vu? Le père Paizos était en lévitation. Lévitation. Il l'a dit, c'est tout. Alors on peut très bien ne pas croire, dire que c'est des hallucinations. Moi je pense qu'à un certain niveau spirituel, c'est normal. Et il y a des tas de choses qui sont tout à fait normales, tout à fait extraordinaires. Mais pour moi, l'extraordinaire n'est pas le spectaculaire. Il suffit, quand je rentre dans l'église, de me dire, je vais rentrer dans un lieu extraordinaire. Et puis il suffit, quand je lis la parole divine, que je me dis, attention, c'est extraordinaire. Pour que tout d'un coup, je vois, j'entends, je goûte, je respire, je touche, je sens, j'acquiers un corps, je rentre dans mon corps, et en rentrant dans mon corps, je rentre dans la transcendance. Et je découvre à l'intérieur de moi cet autre. Voilà. Simplement, vous voyez, se préparer à rencontrer Dieu, c'est ce qui permet de le rencontrer. Et ça permet de comprendre quoi? Pourquoi on appelle tous les mystiques des anachorètes. J'ai eu la révélation de ce que veut dire anachorète à la gare de bus de Thessalonique en prenant le bus pour Oranopolis et Montathos, quand il y avait des annonces de départ en grec anachoresis, anachorète. C'est-à-dire, on allait tous prendre le départ, et je crois qu'on ne comprend rien aux choses divines si on ne se prépare pas, si on n'est pas en état d'anachorèse, si on n'est pas en état de départ, si on ne se dit pas « attention, il y a quelque chose qui commence ». Je vous assure, essayez de lire l'Évangile en disant « je ne sais rien » et « je suis devant quelque chose d'extraordinaire » pour que tout change. Et que tout d'un coup, le sens de l'Évangile vous soit donné. Au fond, quand on va quand on est invité, bien, on s'habille, hein, comme dans la parabole du banquet. Et il faut se préparer à rencontrer une chose divine. Donc, premier point, attention. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous vivons ici à Saint-Éraphin, C'est extraordinaire et nous le vivrons d'autant mieux que ce sera extraordinaire. Le deuxième point, c'est très important, tout est intérieur. Il faut rompre avec le monde, et c'est ce que veut dire la mort au monde. Tout se passe de l'intérieur et c'est un état intérieur. À propos de toute chose, vous voyez, cette nuit, j'étais en train de faire un article pour Atlantico sur la question de l'indignation. Je voyais des. Je me dis, qu'est-ce que c'est que l'indignation? Écoutez, vous avez trois indignations. Vous avez la juste révolte, vous avez la colère sacrée, et puis vous avez la réaction véhémente. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ça ne sert à rien de s'indigner, et que c'est même ridicule. Pourquoi? Ben, parce que les choses vraiment sérieuses, elles se passent à l'intérieur. Et pourquoi les choses se passent vraiment à l'intérieur? Pour des raisons que j'ai très bien compris dans le livre que j'ai terminé sur Pascal, où Pascal dit « La vraie morale se moque de la morale ». Et il rajoute « L'esprit de géométrie, contrairement à ce qu'on pense, est sans règle. À l'inverse, l'esprit de finesse, lui, il est réglé, parce qu'il est réglé par le cœur et par le sentiment. » Je me suis dit, pourquoi est-ce que Pascal dit ça? Parce qu'il n'y a pas plus rigoureux que le sentiment. Et pourquoi il n'y a pas plus rigoureux que le sentiment? Parce que sentir, c'est sentir qu'on sent. Et quand on sent, si on sent vraiment, on le sent. Et quand on ne le sent pas, on le sent également. Et ça, c'est exactement la même chose que la pensée. Et là, on est quoi? Là, on est au cœur de l'état intérieur. Et on est au cœur de la métanoïa, de la métanie, du repentir. Un sage tibétain, un jour, qui a dit, il y a trois choses à faire dans la vie. Premièrement, faire des choses utiles. Deuxièmement, ne pas faire le mal. Troisièmement, transformer ses pensées. Les deux premières sont faciles. La troisième est très difficile. Quand les pères du désert expliquent ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? Nous transfigurons l'intelligence par la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est dans l'expérience de Dieu. Je rentre à l'intérieur de moi et j'essaie de voir si je suis vraiment là, si je sens vraiment ce que je sens. Et croyez-moi, très vite, vous êtes rectifié parce que vous apercevez que vous n'êtes pas dans l'attention, que vous êtes complètement distrait par l'extérieur. Et il faut beaucoup de fermeté pour vraiment sentir que l'on sent, être vraiment là. Et ce qui est merveilleux, c'est que le ciel nous rectifie en permanence. Et que là, on a un dialogue avec le ciel. Et là, on comprend ce que veut dire le repentir. Le repentir, pour moi, ça ne veut pas dire s'accuser d'avoir fait ceci ou cela. Le véritable repentir, c'est de se dire, est-ce que je suis vraiment rassemblé? Est-ce que dans ce carême, j'ai vraiment vécu le rassemblement? Est-ce que j'ai été dans l'unité? Alors moi, je dois vous dire que c'est très difficile. C'est très compliqué. Et donc, vous voyez, dans une expérience quotidienne, je prie la prière du cœur. Essayez de prier la prière du cœur 100 fois, sans chapelet. Simplement en essayant de bien contrôler la dizaine dans laquelle vous êtes. Et je vais vous dire, c'est incroyable. Dès la première dizaine, je confonds tout. Pourquoi? Parce que le sommeil me prend. Et j'ai énormément de mal à savoir si je suis dans la deuxième ou la troisième. Ça paraît rien, mais c'est un exercice. Pour arriver à être très clair dans sa prière, il faut être vraiment concentré. Il faut vraiment donner de tout son être à Dieu. Et ça, c'est important dans notre monde. Qui est concentré? Est-ce que nous sommes vraiment concentrés? Nous sommes dans un monde qui n'est plus du tout concentré. Les psychologues ont constaté que chez les jeunes, il y a des troubles de l'attention. En permanence, nous sommes captés par des images. Regardez le métro, tout le monde est en train d'avoir le nez dans son portable. Et à l'inverse, tout le travail des pères, c'est un travail intérieur pour être là. Heidegger disait, l'expérience de l'être, c'est être là. être vraiment. D'où la profondeur du Christ en disant que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Rentrez dans vos oreilles. Écoutez ce que vous écoutez. Si vous écoutez ce que vous écoutez, vous comprendrez ce que je dis. Sinon, vous ne comprendrez rien. Donc ça, premier point, l'extraordinaire. Deuxièmement, l'état intérieur. Troisièmement, ça c'est un cadeau du ciel qui m'a été fait. De temps à autre, on a des intuitions. Et le cadeau du ciel, c'est de dire « Serre-toi de moi comme une matrice d'image. » C'est-à-dire, il y a le Christ, et derrière le Christ, il y a le Dieu fait homme, il y a la Trinité. « Serre-toi de cette idée et mets-la partout. Regarde tout avec ses yeux. » C'est bien ce que nous essayons de faire. Qu'est-ce que c'est que être chrétien? Être chrétien, c'est mettre le Christ au centre. Qu'est-ce que veut dire mettre le Christ au centre? On nous a habitués à dire que mettre le Christ au centre, c'est au fond faire des bonnes actions, penser aux pauvres et penser à ce qu'on appelle maladroitement le prochain. C'est vrai. Mais si on ne rentre pas à l'intérieur, ça ne sert à rien. Combien on s'est rendu compte qu'il y avait une crise en 19e siècle, qu'il y avait des tas de bonnes dames qui faisaient des bonnes œuvres et qui pensaient acheter le ciel par des bonnes œuvres et puis qui se regardaient de faire des bonnes œuvres et qui ne progressaient pas spirituellement. Pourquoi ? Elle ne s'était jamais arrêtée et concentrée. Le Monseigneur Antoine, dans l'école de la prière, il y a une dame qui dit « Je ne comprends pas, je prie la prière du cœur, je n'ai aucun résultat. » Et lui, lui a dit « Vous allez arrêter de prier la prière du cœur et vous allez regarder la chambre dans laquelle vous êtes. Vous avez de l'argent, vous avez une jolie chambre, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez dit merci, est-ce que vous avez été vraiment là ?» Là. Alors c'est très intéressant. On va le voir, on va le voir. Si on rentre, si on fait vivre le Christ, pas simplement en quêtant un état de fusion, c'est-à-dire j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens pensent le Christ comme la quête d'une extase, hein, d'une fusion avec le Christ qui un jour va arriver, on va se confondre dans un débordement d'amour. Ça existe, mais attention. Il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est la présence du Christ à l'intérieur de la vie. Et quand à un moment on se sert, on va le voir, du divino-humain et de la Trinité, mais tout d'un coup, tout se met en mouvement. Tout devient vivant. Et je veux dire qu'on comprend ce que veut dire passer de la mort à la vie. On comprend ce que veut dire ressusciter. On rentre non seulement dans un monde vivant, mais dans un monde plus que vivant. Dernier point, quand on rentre dans l'extraordinaire, dans l'état intérieur, dans les images, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait des passages, on fait des Pâques. C'est-à-dire, Pâques, c'est la fête du passage. Le passage, c'est le passage de la mort à la vie. Mais le passage de la mort à la vie, c'est ce qui se passe quand on vit la parole, quand on vit le Verbe. Et quand à un moment, on est capable d'opérer des Pâques, c'est-à-dire de voir un monde qui est dépourvu de sens, qui est avec tout d'un coup une relation au sens. Et un sens qui est plus que le sens. Et qui est une merveille, ça fait venir l'intelligence divine. Et quand on fait venir l'intelligence divine, qu'est-ce qui se passe? On guérit les yeux, on guérit les oreilles, on guérit les hommes. Et donc, on peut bâtir, on peut commencer à bâtir un vrai monde. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît. La méthode, c'est quoi? L'extraordinaire, la vie intérieure, les images, les passages. C'est-à-dire ouvrir les yeux. Deuxième élément, la vie. Je l'ai dit, nous venons de la vie, nous allons vers la vie, nous sommes là pour vivre. Et qu'est-ce qu'on nous demande? De vivre, mais de vivre vraiment. Et d'élever le niveau de la vie. Pour comprendre la Trinité, il faut bien voir que la Trinité et la vie, c'est la même chose. J'ai un très bon ami au Mont Athos, qui est le père Ambroise, un moine de Stavroniquita, que j'aime énormément, qui est un ancien enseignant de patristique à l'université de Fribourg et qui, à force de travailler la patristique à Fribourg, se dit, mais finalement, c'est dans l'orthodoxie que se passe la patristique. Il est allé voir, il a voulu aller voir au Mont Athos si c'était vrai, mais il est resté au Mont Athos. Et le père Ambroise m'a dit, tu sais, il y avait des ascètes au Mont Athos et qui existaient un peu au temps du Christ. C'est un endroit de prière depuis très longtemps, plus tard qu'en parle. Et il dit, quand on est allé dire au Mont Athos, aux ascètes, quand on leur a parlé non seulement de Dieu, mais de la Trinité, ils ont été fous de joie. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai trouvé la réponse. Pourquoi est-ce que la Trinité, c'est une révélation extrêmement joyeuse? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas plus vivant. Et pourquoi il n'y a pas plus vivant? Parce qu'avec le Père, le Fils et l'Esprit, on a affaire aux trois aspects de la vie. Le Père, la source ineffable de toute chose. Le Fils, la manifestation visible de l'invisible. Et l'Esprit, ce qui va au-delà. Ce qui fait que le Père est encore plus le Père, et que le Fils est encore plus que le Fils, et que tout est encore plus que tout. Qu'est-ce qui m'a guidé pour ça? Cette parole de Denis l'Aréopagite dans Les Noms Divins, qui dit « Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant ». Donc, les choses ne sont pas simplement vivantes, mais plus que vivantes. Alors là, j'utilise ma méthode. On parle du Père, mais de grâce, n'identifions pas le Père à ce qu'a fait Michel-Ange dans la chapelle Sixtine à propos de la création de la vie. Du point de vue esthétique, c'était époustouflant. Du point de vue théologique, c'est une catastrophe. Le Père, Dieu, étant représenté comme un noble vieillard barbu, assez musclé, avec le Fils, qui est visiblement un jeune et faible, assez lassé. Le Père, il faut faire vivre ce mot. Le Père, ce n'est pas le Père au sens masculin. Le Père, c'est ce qui se passe quand on fait l'expérience de la paternité. Mais qu'est-ce que c'est que l'expérience de la paternité? On commence à en avoir une petite idée avec les grandes découvertes, les grands créateurs, tous ceux qui ont fait des tournants. On dit à un moment, par exemple d'Oppenheimer, on dit c'est le père de la bombe atomique. Bon, c'est pas génial comme vision du père. Mais vous avez tous ceux qui ont été les initiateurs de la création et de créations fantastiques qui ont créé des avenues et des boulevards de la connaissance et de la création. Ce sont des pères. Ce sont des pères. Qu'est-ce que c'est que le père? Le père, c'est celui qui crée de manière géniale. Mais aussi, pourquoi il est génial? Parce qu'il va loin. Parce qu'il a une vue. Qu'est-ce que ça a été mon père pour moi? Mon père, il avait de l'ambition. Et il voulait me pousser en avant pour que je fasse mieux que lui. Là, on a affaire à un père. Là, on a affaire à quelqu'un qui veille. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre le père? Sortir des images masculines qui ont enfermé cela. pour voir une source géniale qui emmène tout vers l'avenir, qui est époustouflante. Alors là, ça a du sens. Et qui veille sur toute chose. Le Père, il veut tout, premièrement, il a fait une création qui est géniale. La preuve, il disait, il y a trois inconnus, Dieu, le corps et l'âme. On croit qu'on connaît, on ne connaît rien. On commence à connaître, et quand on connaît des choses, c'est incroyable. N'oubliez pas que quand on rentre dans la matière et qu'on fissure l'atome, on découvre l'énergie atomique. Et quelle est la caractéristique de l'énergie atomique? C'est qu'on ne sait pas comment l'arrêter. Attention, on a touché à l'intérieur de la matière à des noyaux divins. Ça veut dire que ça va très, 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 très loin. Donc, il faut bien voir qu'est-ce qui est un père pour nous. C'est ce qui est génial, qui va loin. Et si on voit le Père ainsi, mais ça nous console, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de soupirs. Pensez, il y a le monde est décevant. Mais à l'intérieur de nous, c'est qui le Père? C'est dire, ne t'inquiète de rien, je suis là, et crois-moi, je vais t'emmener dans quelque chose que tu ne voudrais pas. Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est quelque chose qui nous console. Là, s'il y a ça, on comprend qu'on ne vit pas pour rien. Donc ça, ça me paraît très important. Et d'avoir, et de faire une expérience du Père, et de la rencontre avec le Père, et de cet amour incroyable de quelqu'un qui veut libérer la part de génie de toute chose et l'emmener tout vers l'avenir. La deuxième chose extraordinaire dans le Père, c'est quoi? C'est que le Père est tellement Père qu'il va au-delà du Père. Et qu'il n'est pas simplement le Père dans le visible, mais qu'il est le Père dans le visible. Et le Père dans le visible, c'est quoi? C'est le Christ. On dit que c'est le Fils du Père. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un Fils du Père? C'est le Père autrement. Donc, c'est quoi? C'est une source de vie, mais une source dans le visible et pas simplement dans l'invisible. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette chose extraordinaire de l'amour du Père, c'est que le Père distribue son amour à un autre que lui. Alors ça, c'est très important. Tout le judaïsme est fondé sur l'idée de la transmission. Et puis, oui, j'en ai parlé avec le Père Macaire de Montatos, il dit, attention, il y a la relation d'amour entre le Père et le Fils. Et la relation d'amour entre le Père et le Fils, c'est que le Père donne tout au Fils pour que le Fils en puisse ensuite diffuser. Dans la théologie orthodoxe, on dit quoi? Que dans la création du monde, oui, Dieu crée le monde, mais c'est le Fils, le Christ, qui fait passer la création de l'invisible au visible. Pour que le visible aille dans l'invisible. Très belle expression. Et là, on comprend quoi? On comprend quelque chose qui est extraordinaire, qui est le mystère de l'homme. Le mystère de l'homme, c'est que la vie ne s'arrête pas simplement au Fils. La vie va au-delà du Père et du Fils sous deux formes, l'Esprit Saint, et puis d'autre part, l'homme. Qu'est-ce qui caractérise l'homme? L'homme, c'est celui qui reçoit le Père et le Fils et qui est capable de vivre consciemment le fait d'exister dans l'univers. Alors là, on est devant des choses époustouflantes. N'oubliez pas que Saint Jean Chrysostome a dit que le transcendant soit transcendant, on peut le comprendre. Que l'immanent soit l'immanent, on peut le comprendre. Et que le transcendant soit immanent, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, c'est la même chose que de dire que nous soyons ici en train de vivre et en étant conscients de vivre, c'est absolument vertigineux. Pourquoi c'est vertigineux? Ben c'est vertigineux parce qu'il est vertigineux d'avoir une pensée et une conscience. Et pourquoi c'est vertigineux? Parce que notre conscience est plus grande que l'univers. Nous pouvons avoir conscience de la galaxie dans laquelle nous vivons, des galaxies autour de cette galaxie, des milliards de galaxies qui existent. C'est sidérant. Et donc, il y a cette existence de l'homme. Vous voyez, Heidegger disait, l'homme est le berger de l'être, mais l'homme n'est pas simplement le berger, c'est celui qui reçoit tous les mystères du Père et du Fils et de la création, et qui est capable de les faire vivre. C'est extraordinaire. Mais deuxièmement, vous avez quelque chose de magnifique qui est le fait d'aller au-delà du Fils. Au-delà du Fils, il y a quoi ? Il y a l'Esprit. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit ? Ben, je remarque qu'on a du mal à comprendre l'Esprit Saint parce qu'on n'introduit pas l'avenir. On n'introduit pas le plus que. On n'introduit pas ce qu'on appelle le principe d'éminence. Dieu n'est pas simplement Dieu. Il est plus que Dieu. Il est éminemment Dieu. Le Fils n'est pas simplement le Fils. Il est plus. Et nous apercevons quoi ? L'homme est appelé à être plus que l'homme. Tout est appelé à être plus. C'est la raison pour laquelle tout est appelé à la nouveauté. C'est la raison pour laquelle, dans l'Apocalypse, tout se termine par la nouveauté. Alors, là, nous avons un sens quoi ? Ben, nous comprenons que la Trinité et l'ultra-vivant, c'est la même chose. L'incroyablement vivant, c'est la même chose. Pour ne pas nous perdre dans sa sagesse, l'Église nous parle du Père, l'Église nous parle du Fils, l'Église nous parle de l'Esprit, l'Église nous parle de l'homme. On décompose les choses. Si l'Église nous disait « on est devant l'ultra-vivant », on serait tous perdus. Tandis que, en parlant du Père, du Fils, de l'Esprit, de l'homme, bien, on peut faire l'expérience du Père, l'expérience du Fils, l'expérience de l'Esprit, l'expérience de l'homme. Et donc, par là même, on peut aller vers l'ultra-vivant. Mais la vérité, c'est que quand on fait l'expérience mystique de Dieu, bien, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et là, nous comprenons ce que veut dire le mystère trinitaire. Le mystère trinitaire, c'est pas le fait que c'est incompréhensible. C'est le fait qu'il y a une source de vie qui est totalement inconnue, qui est totalement nouvelle. Et je vois bien que tout l'effort et toute la patience et toute la sagesse de l'Église consiste à nous ouvrir à ce mystère. Ça, c'est le deuxième point que je voulais développer. Maintenant, on va appliquer pratiquement la Trinité, parce que je crois que c'est très important de comprendre que tout ce qui est dit dans l'ineffable, dans l'invisible, eh bien, tout est manifesté, rien n'est caché, et que nous pouvons faire l'expérience de cet ultra-vie. Alors, quelle est la voie royale pour faire l'expérience de l'ultra-vie ? C'est la voie de la beauté qui est la même chose que l'orthodoxie. Qu'est-ce que c'est que faire une expérience spirituelle ? Faire une expérience spirituelle, c'est faire une expérience de la réalité pour rentrer dans ce que j'appelle le réellement réel. Qu'est-ce que c'est que le réellement réel ? C'est la rencontre entre l'existence et l'être. Qu'est-ce que c'est que l'existence ? C'est la réalité concrète, ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est ce qui embrasse tout. Qui a été, qui est, qui sera. Autrement dit, c'est Dieu. Mais Dieu a de multiples noms, et en particulier la lettre, parce que ça nous permet d'avoir, d'accéder au Dieu comme réel. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la vie ? C'est des moments où l'être et l'existence se rencontrent. Quand est-ce qu'ils se rencontrent ? Quand je m'arrête et que je vis pour vivre. Je regarde pour regarder, j'écoute pour écouter, je respire pour respirer, je goûte pour goûter, je sens pour sentir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, tout en étant dans la réalité concrète, je ne suis plus dans la réalité concrète, je suis devant quelque chose qui est. Qu'est-ce qui nous bouleverse? Ce matin, je me lève et je regarde une rose qui est là, dans un verre d'eau. Et je m'arrête et j'ai comme un écho dans le corps, dans le cœur, comme un rayon qui traverse le cœur. Et pendant une fraction de seconde, tout mon corps vibre, je frémis, je suis heureux, je suis bouleversé. J'étais un peu ailleurs. Ça a duré une fraction de seconde. Qu'est-ce qui se passe? Pendant une fraction de seconde, cette rose qui existe, elle n'a pas simplement existé, elle a été. Elle était vraiment une rose. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'expérience de la création. Qu'est-ce que fait un artiste? Un artiste fait exactement la même chose. Il prend un élément de la réalité, il s'arrête et il voit l'être à l'intérieur de l'existence. L'infini dans la paume de la main, l'éternité dans un instant, comme dit William Blake. Et là, ça nous nourrit. Nous sommes dans un monde qui est censé être un monde de communication. Mais la vérité, on n'est pas dans un monde de communication, on est dans un monde de guerre, où on est bombardé par des choses qu'on appelle la communication, mais de laquelle il n'y a aucune communication. Quand est-ce qu'il y a communication? Il y a communication quand il y a rencontre vraiment vivante, vraiment humaine, vraiment céleste. Rencontre vivante, je vais dans une forêt, je sens la forêt, et je sens que je sens, et je ressors de là, lavé, vivifié. Je vois quelqu'un, je prends le temps de regarder la personne, de l'écouter, de la sentir, et tout d'un coup, la personne est heureuse. On s'est rencontrés. N'oubliez pas qu'un des problèmes majeurs de la société française réside dans la souffrance morale, parce que les gens ne se sentent pas reconnus et qui se disent « je peux mourir, tout le monde s'en moque ». On passe les uns à côté des autres sans se voir. Il y a des gens qui travaillent, qui se donnent du mal et qui disent « personne ne fait attention à moi, personne ne m'a jamais dit merci, personne ne me salue ». Et tout d'un coup, vous saluez quelqu'un, vous lui dites merci, vous considérez son travail, la personne existe. Et vous dites, c'est extraordinaire, j'ai eu le sentiment d'exister. Ça, c'est un cadeau qu'on peut se faire en tant qu'être humain, qui est fabuleux. Ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est-à-dire il y a de la vie vraiment vécue. Et puis, on rentre dans les choses divines. Et tout d'un coup, on s'arrête, on écoute, et on se laisse transporter par une parole, un chant, ou simplement le silence, ou simplement la flamme d'un cierge devant une icône. Et tout d'un coup, on est traversé par quelque chose qui vient du ciel sur la terre. Et là, on vit Dieu. C'est pour ça que je dis, moi je ne crois pas en Dieu, je le vis. Pas quelque chose que je crois, quelque chose que je vis. Donc, là, on fait l'expérience du beau. Et qu'est-ce que c'est que le beau? Le beau, c'est une prouesse. Vous avez la réalité. Vous avez la réalité qui est conforme à elle-même. Elle est bien ordonnée. Là, vous n'êtes plus dans la réalité, vous êtes dans le bien. Et vous avez quelque chose qui est mieux que bien. C'est le beau. Qu'est-ce que c'est que le beau? Bien, le beau, c'est ce qui conforme à lui-même, non pas d'un point de vue terrestre, mais d'un point de vue céleste. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes en accord avec quelque chose d'autre qui vient vous visiter. Et la prouesse, c'est d'avoir être capable de partir, d'aller de la terre vers le ciel. Vous écoutez Mozart, vous n'êtes plus sur terre. Vous êtes dans le ciel. Vous faites l'expérience que j'ai eue d'aller au monastère roumain de Bucarest, de Stavropoléos, où j'ai été dimanche dernier. Vous écoutez le chant byzantin, vous n'êtes plus sur terre. J'ai écouté le chant byzantin au Mont Athos, je ne m'en suis jamais rendu. Et j'ai compris ce que disaient les envoyés du prince Vladimir quand ils sont allés à Sainte-Sophie à la fin du Xe siècle. Le tsar cherchait une religion, il voit l'orthodoxie à Sainte-Sophie et ils disent toutes les autres religions étaient intéressantes, mais à Sainte-Sophie, on n'était plus sur terre, c'était le ciel sur la terre. Donc là, et là c'est important. Parce que tout ce que je vous dis sur le beau et l'orthodoxie, c'est la même chose. Vous avez trois religions, trois confessions chrétiennes. Catholicisme, protestantisme, orthodoxie. Catholicisme, sens de l'universel. Protestantisme, sens de la réforme. Orthodoxie, sens de la beauté. Et donc, c'est... La spécificité de l'orthodoxie, c'est de nous apprendre Dieu par la beauté. Alors c'est important, j'ai fait une découverte justement quand j'étais à Stavropoléos et en parlant avec le père Justin, il m'a révélé les sources de la fameuse parole de Dostoïevski, la beauté s'ouvre au monde. C'est pas Dostoïevski qui dit ça, c'est saint Isaac le Syrien. Dostoïevski allait au monastère d'Optino et il l'a entendu d'après les moines d'Optino. Et c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que saint Isaac dit si vous parlez de Dieu, il faut que ce soit beau. Parlez de Dieu dans la beauté. Là, il y aura la beauté. Là où il y aura Dieu. Donc ça me paraît. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Soyez plus que vivant. Et laissez-vous inspirer par le plus que vivant. Alors, ça m'amène à mon quatrième et dernier point, l'actualisation de la Trinité dans notre monde. L'actualisation de la Trinité se trouve d'abord dans le 3. Qu'est-ce que signifie le 3 ? Le 3, ça signifie la croix. Le 3 et la croix, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que vous avez les deux qui s'opposent et vous avez l'au-delà. C'est complètement idiot de dire que la croix, c'est le croisement de l'horizontal et du vertical. Parce que ça nous fige dans l'espace. Il faut arrêter de voir la croix comme ça. Ça, c'est la croix du passé. La croix de l'avenir, c'est autre chose. C'est le 3. C'est quoi le 3 ? Le 3, c'est exactement l'expérience du beau. Qu'est-ce que c'est que l'expérience du beau ? Je m'arrête, et dans l'existence, il y a l'être, et dans la rencontre entre l'être et l'existence, il y a la présence, il y a le rayonnement, il y a la vie qui aime la vie. Et donc là, il y a un sens de l'amour céleste. Là, on va faire quelque chose de très important, parce que j'ai toujours dit à Anne que je tiens Bassarab Nicolescu pour un génie. Vous allez comprendre pourquoi Bassarab est génial. Parce qu'il a travaillé là-dessus. Il a travaillé sur le 3. Il a travaillé sur la croix. La physique quantique a découvert qu'il y a une double interprétation possible de la matière, corpusculaire ou ondulatoire, matérielle et immatérielle. Les scientifiques se sont arrêtés là. Ils n'ont pas exploité théologiquement cette découverte. La la matière a une double interprétation possible. C'est parce que l'essence de la matière se trouve non pas dans la matière, mais dans l'énergie, et non pas dans l'énergie, mais dans la lumière, et non pas dans la, et derrière la lumière, la fulguration. Si la matière est à la fois corpusculaire et ondulatoire, c'est parce qu'à un moment, le visible et l'invisible, le matériel et l'immatériel coïncident, et que c'est absolument fulgurant. Quand les physiciens vont dans les structures profondes de la matière, ils ne peuvent plus mesurer les choses normalement, parce que c'est fulgurant. Leibniz, accepté dans la monadologie, dit « Dieu crée le monde par fulguration ». C'est fulgurant. La matière est fulgurante. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites l'expérience du beau, c'est fulgurant. Et quand vous êtes dans la création artistique, c'est fulgurant. Et Bassara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le fulgurant et le Christ, c'est la même chose, c'est ce qu'il appelle le tiers secrètement inclus. Les structures, les fondements de la réalité sont époustouflants, fulgurants. Et c'est exactement ce qu'il y a dans la rencontre entre l'homme et Dieu, le visible et l'invisible, la terre et le ciel. C'est fulgurant. Quand on fait vraiment l'expérience du Christ, on ne peut pas le voir parce que c'est fulgurant en termes de lumière. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le 3. Ça, c'est la Trinité. Vous voyez? Donc, quelque part, le Dieu vivant, le Christ réalisé, la divine Trinité, c'est la même chose. Ça nous amène à un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est la traduction de la croix. La traduction du Christ. La traduction du fulgurant. La traduction du fulgurant, c'est la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Il y avait un grand anthropologue de la culture araméenne qui a dit toute la culture araméenne, qui était la culture du Christ, était une culture trinitaire fondée sur trois éléments, le parlant, la parole et le souffle. Qu'est-ce que c'est que le parlant? Le parlant, c'est ce qui parle de lui-même et qui n'a pas besoin de parler pour parler, tellement il vit. Donc c'est le totalement vivant. Et ça, c'est la même chose que le verbe. Par principe, le verbe est. Par principe, le totalement vivant est. Par principe, le parlant est. Et le parlant, c'est quoi? C'est ce qu'il y a derrière toute chose. C'est ce qu'il y a derrière tout être. C'est ce qu'il y a derrière chacun de nous. Il y a en chacun de nous un parlant qui sait qui nous sommes et qui correspond à ce que nous sommes. Et que ça donne quoi? Quand ça se manifeste parlant, ça donne la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est un visage et un nom. C'est-à-dire, tout d'un coup, le totalement vivant devient... C'est le totalement personnel, le totalement intime. Non seulement c'est vivant, mais c'est intime. Expérience en moi du Fils. Et après, le souffle. Non seulement c'est vivant et c'est intime, mais c'est plus que vivant et c'est plus qu'intime. Donc prépare-toi. Là, là. Alors pour parler de ça, il y a eu deux métaphores utilisées dans un jour, j'ai entendu un sermon catholique parlant de la Trinité. Il avait cette belle image. Le soleil, le rayon du soleil et l'éclat du rayon. Vous avez une autre image. Vous avez une autre image. La source, le fleuve et l'océan, pour parler. Troisième et dernier point, vous avez le oui, et puis vous avez le passage, la Pâque. J'ai un ami, un psychanalyste, qui m'a raconté l'histoire suivante. Un jour, il suivait les cours de Jacques Lacan, et Jacques Lacan lui a dit, cher ami, est-ce que vous voulez dire devant l'Assemblée, il y avait 2000 personnes, ce que vous m'avez raconté l'autre jour en analyse. Il avait parlé de quoi? Il avait parlé du oui, du oui, du oui. Alors je me suis dit, tiens, le oui, du oui, du oui, la Trinité, quelle est la relation? Bien, nous apercevons que la Trinité et le oui véritable, c'est la même chose. Quand je dis oui, je ne dis pas non. Bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, il faut quand même savoir si je dis vraiment oui. Et donc, quelqu'un, vous savez, on a tous dit à quelqu'un, alors qu'est-ce que tu dis à ça? Tu dis oui ou non? Alors, on dit oui. Ben, on revient, on dit, tu dis vraiment oui? Oui, je dis oui. Alors là, on est dans le oui du oui. Mais quand est-ce qu'il y a vraiment oui? Quand il y a pas simplement oui, mais oui du oui. C'est-à-dire quand on est dans le oui qui vient d'ailleurs. C'est plus nous qui disons oui, c'est la vie qui dit oui à travers nous. Et là, c'est pour lui, pour Lacan, c'était le oui de l'inconscient, le oui du sujet de l'inconscient. Bon, pour les orthodoxes que nous sommes devant le miracle de la vie et du oui à la vie, et de quelque chose qui dénoue l'homme. Quel est notre problème? Le plus grand problème de l'être humain, c'est le oui à la vie. Vous savez, j'ai fait des cours dans des unités de soins palliatifs et j'ai parlé du sens de la souffrance dans Lacan. Le sens de la souffrance réside dans le fait d'accepter la souffrance et de dire oui. Et de ne plus discuter. Oui. Ah, ça donne une force incroyable. C'est incroyable quand on ne discute plus et on accepte fondamentalement ce qui est. Eh bien, on ne souffre plus. Ben le oui, le oui, le oui, c'est ça. Dernière chose que je trouve assez savoureuse, quand on passe par l'hébreu, quand même intéressant de voir la signification dans l'alphabet hébraïque du 1, du 2 et du 3. Qu'est-ce que c'est que le 1? Le 1, c'est l'enseigneur, celui qui enseigne. Mais c'est l'époux. C'est l'époux. Le 2, c'est quoi? C'est la maison. Et le 3, c'est quoi? C'est le chameau. Alors, qu'est-ce que donne le 1, le 2 et le 3? Je crois que le 1 et le 2 et le 3 donnent le passage. Qu'est-ce que c'est que le chameau? C'est celui qui peut traverser tous les déserts parce qu'il a une réserve d'eau à l'intérieur de lui. Et d'où lui vient cette réserve? Cette réserve d'eau vient de ce qu'il a rencontré, sa maison intérieure, mais n'oubliez pas que le mot maison, demeure, est le même mot que le mot éthique, qui veut dire, et donc la demeure, l'éthique, c'est la même chose. C'est-à-dire, il est rentré en lui-même, donc il a une maison, donc il a une réserve. Et d'où lui vient cette? Cette réserve vient de l'enseignement, de la parole, de la transmission, de l'expérience qu'il a fait d'écouter le Verbe qui a révélé sa maison intérieure et qui lui donne la force de tout traverser. D'où l'extraordinaire mystère de Pâques. Vous savez, on se demande souvent pourquoi Dieu permet le mal. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un monde parfait? Imaginez que le monde soit parfait, il n'y aurait rien à faire. Et donc, ce serait la mort. Mais je crois surtout, le grand cadeau de Dieu, c'est de dire, je ne vais pas supprimer le mal, je vais faire mieux que de le supprimer, je vais te donner la force de le traverser. Et vous voyez, c'est ce que l'on vit dans le mystère de Pâques. On ne va pas supprimer la mort, on va te donner la force de le traverser. Donc je vous souhaite une bonne Pâques à tous. Que nous trouvons tous en nous cette force qui nous permet de tout traverser. Amen. Amen. Merci. Et bien évidemment, la parole est à vous.
Alors, on va poser la question.
Comment ça va?
Maintenant, tu nous as parlé de donner des références des moines atoniques.
Oui.
Et tu m'as rappelé une chose.
Oui.
Quand j'étais jeune étudiant, je voyageais beaucoup à Mon Athos aussi. Et tu sais, est-ce que tu étais à Karoulia?
Oui.
Karoulia, c'est
très élevé.
Au sud de Mon Athos,
oui.
Qu'il n'y a pas beaucoup de moines, il n'y a que des ermites. Comme ça, deux ou trois moines qui vivaient dans la cellule. Et je suis venu où il y avait deux ou trois. Il y a deux vieillards et un plus jeune. Et j'étais avec eux, on a fait le repas et on a fait le signe de croix. Et j'ai fait le signe de croix un peu rapidement. Et il y avait un père séraphin, il est là, il s'est levé, il dit, ben, on fait le signe de croix au nom du Père. Et il a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi on met ici les trois doigts sur le front au nom du Père? Ben, il a dit, il y a quelque chose derrière qui est invisible mais qui existe véritablement. Il y a beaucoup de choses dans notre tête. Voilà, il a mis aussi en disant au nom du Père. Bon, il passait au Dieu du Père. Voilà, comme nous l'appelons le Père, il dit, il est là. Invisible, mais il existe. Il a dit, on fait ici, on dit au nom du Père et du Fils. Bah, c'est les entrailles de nos mères où nous sommes tous pris la vie. Et donc, voilà, c'est incarnation. Au nom du Père. Et du Fils. Il disait, et du Saint-Esprit. Alors, et de ce Saint-Esprit, côté gauche, il y a le cœur. Alors, donc, il a établi un lien entre invisible, incarné, et le cœur où tout se vit. Voilà. Donc, il m'a expliqué un peu, pour rapidement, de rappeler que ceci n'est pas seulement quelque chose de rapide, mécanique, et que nous faisons très souvent, sans réfléchir, mais il dit, arrête-toi chaque fois quand tu fais le signe de croix, tout doucement, sans précipitation, voilà, mais on dit, au nom du Père, invisible, quelque chose qui est vraiment incarné, et tout est centralisé dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que tu penses?
À mon avis, on est toi et moi sur la même longueur d'onde.
Simplement, tu nous as bien expliqué. Voilà. Donc, je vous ai donné exact, justement voilà. Un peu comment ce moine, qui n'était pas long cultivé, il est venu à Mon Athos, tout jeune homme, avant la révolution, évidemment, de 17. Il n'est jamais sorti de ce lieu. Et il a vécu tout ça et il dit, bah, quand tu fais le signe de croix, tu penses, tu réfléchis. Que ce n'est pas seulement rapide, mais de s'arrêter au nom du Père. Voilà, de protéger cette partie-là, qui est invisible, mais qui vide.
Et voilà l'extraordinaire.
Voilà.
Là, faites extraordinairement le signe.
Voilà.
Et là, on se dit... Mais...
Trinitaire. Voilà,
et c'est moi, c'est voilà. Ce que j'aime de dire. On dit, c'est quoi ton boulot actuellement? Moi, j'ai un truc à faire, voilà. De dire, le christianisme, bien compris, c'est génial. Et donc, la seule chose qui m'intéresse... J'ai conclu en disant qu'il y a un truc à faire, penser le caractère génial de l'Église. Je vous assure, ça change ma vie. Vous voyez, on n'est pas dans des bons dieux, mais on est vraiment dans du religieux très solide.
J'imagine qu'il y a des choses, des gens qui vont troubler un peu Bertrand, pour éveiller encore. Est-ce qu'il y a des petites questions?
Non,
qu'est-ce que vous dire? Non,
c'est des appels Valérie, à l'insurrection. Des appels à l'insurrection.
Voilà, je suis sûr que Valérie va te poser une question difficile.
D'accord.
Lève-toi, que tout est bonne voix. Alors, voilà, très bien.
Aujourd'hui, donc moi, j'ai beaucoup été interpellée par la notion de la conscience. Bon, tout ça parce que j'ai pensé à la conscience est un être, je pense au maître, et qu'est-ce qu'on a l'être autre que lui-même. Et je me suis dit, cette conscience, quand effectivement je prends conscience que c'est aussi tout cet univers, cette capacité qu'a l'être humain à englober dans sa pensée tout l'univers, je me suis dit, bah oui, ça c'est vraiment une grande responsabilité, c'est vraiment quelque chose du plus que vivant, et je vais m'arrêter là en disant, Valérie maintenant pense trinitairement, pense la pensée trinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire cette conscience? Et là, je suis dans l'enseignement et je suis dans le questionnement. Voilà.
Merci.
Merci.
Avec quelques... Ah oui. C'est bien, je crois. On a compris. Tu as vécu l'extraordinaire.
Et j'ai pensé à Anne. Bertrand nous a parlé de notre génie bassarabe. Est-ce que tu t'es reconnu un peu dans cette dimension de parler Bertrand, Anne, cette épouse de bassarabe?
Voilà. En tous les cas, pour moi, c'est j'ai une immense gratitude à son égard.
Ouais.
Parce qu'en effet, le tiers secrètement inclus a transformé la vie.
Aussi.
Oui, cette chose qu'il appelait le tiers secrètement inclus. Je lui dis d'ailleurs. Et parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement compliqué de...
Lève-toi un peu, je suis sûr que là-bas, il allait s'ouvrir.
Ça m'impressionne de faire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a transformé ma vie parce que dans notre vie, il y a énormément de contradictions.
Contradictions.
Tout le temps, on est dans les contradictions. J'aime pas, je me lève, je suis vivant, mais je suis pas vraiment vivant, il fait jour, il fait nuit, enfin, toutes les contradictions qu'on peut, et surtout les insatisfactions qu'on peut avoir dans le cœur. Et quand Bertrand parle de l'acceptation, vraiment l'acceptation, c'est la chose la plus essentielle, puisque c'est ce qui permet de s'unifier.
S'unifier.
S'unifier. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris dans ce qui... Après, je ne suis pas lui, donc je ne sais pas comment il le dirait, mais en tout cas, ce que moi j'ai compris dans mon travail de psychanalyste, puisque tu as amené la psychanalyste et la forme, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous le dire comme ça, ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça m'a parlé. Il y a A et non A, il y a A et B, et il y a A et non A, il y a B et non B, et au milieu, pour qu'on arrive à se comprendre, à se parler, il y a un tiers qui est au-delà du niveau de réalité de A et non A, et qui permet la résolution des contradictoires. Et à ce moment-là, on est dans une unification qui est quelque chose qui n'a jamais existé, qui est à la fois A et B, et qui est à la fois non A et non B. C'est une unification. Et là, récemment, il me bénissait en me disant, il disait que Dieu le Père,
voilà,
il me disait ça, il me disait que Dieu le Père donne à Anne l'unification qu'elle cherche.
L'unification, ce qu'on cherche.
Voilà.
Alors, dire aussi cette relation entre le visible et l'invisible, et la coïncidence entre les deux.
C'est ça.
Et la coïncidence entre les deux, c'est exactement ce que Anne appelle le tiers secrètement inclus, mais le coup de génie des créateurs, c'est là où il y avait contradiction, il n'y a plus de contradiction, il y a unité. Et alors là, on passe de l'autre côté, et alors avec une joie, une énergie formidable, la mort n'existe plus, la souffrance n'existe plus, c'est et c'est ça l'expérience du Christ, c'est Christ en acte. Et quand on dit le Christ a tout embrassé, il a pris les opposés, et au lieu de détruire l'un par l'autre, il les a vécus ensemble et il est passé de l'autre côté.
Alors, qu'est-ce que mon voisin m'a dit? Bertrand.
Oui.
On peut dire que, il me semble qu'on peut être à la fois dans la souffrance et dans la joie du Christ.
Oui.
Moi, ça me semble très important, justement. Et pour soi, et quand on accompagne des personnes.
Alors, ça c'est une expérience qu'on fait, mais à condition de comprendre la souffrance, non pas comme le fait d'avoir mal, mais comme le fait d'accepter d'être rectifié. Quand on est rectifié, on en bave. Mais quand on en bave, c'est merveilleux, parce que on avance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est les expériences créatrices de souffrance, ce sont des moments où, premièrement, on commence par avoir mal, Puis ensuite, il y a une mutation qui se fait et on commence à apprendre quelque chose de ce que l'on vit. Et alors là, il y a cette coïncidence entre ce qu'on peut appeler l'épreuve et d'autre part une joie. Oui, c'est difficile, mais j'apprends. Et là, à ce moment-là, on est devant ces extraordinaires processus de dépassement de la servitude de la douleur, et on trouve la liberté au milieu de l'épreuve. Donc je crois que c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'a voulu dire le christianisme, mais ça a été mal, quand c'est mal enseigné, on a affaire à une espèce de folie qui positive immédiatement la douleur, en brûlant toutes les médiations, et qui fait qu'on ne sait pas quoi dire, ça paraît irréel. Alors que c'est très très juste de dire, il y a, oui, c'est comme une course de montagne, c'est dur, puisque c'est beau. Tout à fait.
Laurent ?
Oui, je voulais dire quelque chose, je suis pas sûr que ça va être très clair, mais j'ai été frappé par l'usage du mot « visible » dans votre intervention et qui m'a martelé l'esprit. Et je me suis dit que, en fait, ce que je ressentais, c'était que pour échapper à la dichotomie visible-invisible, il fallait être inspiré par un certain regard. Et que les choses ne nous viennent pas forcément dans leur caractère visible directement vers nous, mais qu'il faut avoir quelque chose dans ce regard qui soit inspiré. Et je me demandais si, par exemple, qu'est-ce qui inspirait notre regard ? Qu'est-ce qui faisait que, du coup, quelque chose qui était pour nous souvent invisible devenait visible ? Ça, c'est ma question. Et du coup, je me demandais si quelque chose comme, par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'imaginal ne pouvait pas, à un moment donné, inspirer notre regard et lui donner la capacité de toucher le symbole dans ce qui pourrait nous échapper la plupart du temps.
Alors, je pense que l'expérience du regard, c'est l'expérience la plus extraordinaire qui soit, parce que c'est là où on rencontre la deuxième paire d'yeux qui est la nôtre. C'est-à-dire, il y a d'abord le fait de voir avec les yeux, et puis il y a le fait de voir qu'on voit. Mais quand on voit qu'on voit, on ne voit plus avec ses yeux, mais on est vu et on voit avec l'être. Donc, qu'est-ce qui nous permet de voir ? C'est la rencontre que l'on fait avec l'être qui fait qu'on a des yeux qui sont, on voit ce qui est, et c'est l'être qui voit avec nous. Et donc ça, c'est l'expérience spirituelle nous amène là. C'est-à-dire, quand on est plongé dans la vie liturgique ou dans la prière, on débouche directement sur ce regard qui est. Donc tout à fait d'accord. Et je dirais que c'est comment s'organise le monde autour de nous. Le monde s'organise avec toute la culture, avec des écoles, avec des salles de concert, avec des musées, avec des opéras, avec de la musique, avec de la peinture. Il y a un point commun entre tout ça. Le point commun, c'est que tout est organisé pour provoquer des plongées. Nous plonger dans un bain d'images, nous plonger dans un bain de musique, nous plonger dans un bain liturgique, un bain, et là, on est vu, on est, donc on peut se mettre à regarder avec l'être. Voilà. Et c'est ça qui est très très intéressant. En fait, on est baptisé à chaque fois. Chaque fois, c'est un baptême. Voilà. Et je crois, c'est le message que j'ai entendu, va au Mont Athos, plonge-toi dedans, puis tu comprendras après coup. Ne cherche pas à comprendre avant de vivre, vis, plonge dedans. Et puis effectivement, après, tout est donné et on commence à avoir ce regard qui est. Alors c'est très important pour notre monde, pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que tous les problèmes de violence sont liées à la question du regard. On dit quoi ? Les femmes subissent des violences. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait changer le regard des hommes sur les femmes. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, malheureusement, on agit d'une manière très masculine contre les hommes pour que les hommes arrêtent d'être des hommes. On leur tape dessus. On dit en leur tapant dessus, peut-être qu'ils vont changer de regard. Et non. Ce qu'il faut, c'est les plonger devant quelque chose qui est la beauté. Personne ne parle de regarder la beauté de la femme, la beauté du féminin, de plonger dans cette. Alors là, à ce moment-là, on guérit. D'où l'extraordinaire sagesse de la liturgie, parce qu'on est, on arrive ici, on est plongé dedans. Et puis après, on peut vivre, il y a quelque chose qui se met en place. Donc je suis tout à fait d'accord. Et on est dans le visible au sens fort, c'est-à-dire dans le visible qui est visité, habité par l'invisible. On est dans le corps au sens fort, c'est-à-dire le corps habité par l'esprit. Comme dit saint Paul, le corps est le temple de l'esprit. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez le visible, l'invisible et le retour du visible. Vous avez la terre, le ciel et le retour du ciel sur la terre, et qui montre quoi ? La terre derrière la terre, le corps derrière le corps. Et là, en fait, ça veut dire derrière tout ce qui existe, il y a un ciel. Derrière tout ce qui existe, il y a un souffle créateur. Et donc, c'est le coup de génie incroyable du Christ de dire, attendez, on ne va pas dans l'au-delà, on va ici. Et l'incarnation et la transcendance, c'est la même chose. C'est même. Et ça, c'est inouï.
Théophanie.
C'est la théophanie. Et c'est pour ça que vous voyez à un moment, on parle du corps et du sang, et de dire, voilà, ça devient le corps. Et ça veut dire qu'on va de notre corps dans un corps beaucoup plus profond, qui est le corps de résurrection. Et ça, c'est inouï. Il n'y a plus la dualité terre-ciel. Puisque dans la terre, il y a un ciel plus profond que la terre et le ciel. Ah, c'est beau.
Ah, c'est beau. C'est beau parce que c'est toi qui le raconte.
Oui. Ben oui. Écoutez, moi je vous ai livré ce que j'ai compris.
Et nous, on va digérer. Nous, on va digérer.
Et donc,
tout ça.
C'est pour nous aider à faire l'expérience de Dieu comme l'extraordinairement vivant. Voilà, c'est uniquement ce fait.
Merci beaucoup. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui n'osent pas poser des questions maintenant.
Oui, oui. Il y aura peut-être une autre fois. Voilà. Non, mais c'est intéressant de voir, on part avec quelque chose, on va le digérer, tu as raison.